Et voilà que ce soir, pour un journal de l'Afrique, Ghislaine Kounda va nous amener à prendre le large le long des côtes ouest africaines, où le bassin de pêche ouest africain est le plus pillé au monde par les Européens, mais aussi par les Chinois, les Turcs, les Sud-Coréens. Explication.
La première.
Le fin mot. Eddie Kakelbergs.
Bonsoir Eddie, bonsoir à tous. Les conséquences de cette prédation en mer sont désastreuses pour les économies des pays côtiers et leur écosystème.
Au large de Dakar, Ibrahim et ses amis vont jeter leurs filets. Une pêche difficile car le nombre de poissons a cruellement diminué. Face à eux, un bateau industriel a jeté l'ancre. Il bat pavillon sénégalais, mais les pêcheurs nous l'assurent, ce bateau pêche pour une société espagnole.
Ce bateau pêche tous les poissons, y compris les petits poissons. Les gros poissons ont disparu de l'océan. Et en plus, ce bateau détruit nos filets. On doit alors se débrouiller pour en acheter des nouveaux. Pour nous, c'est vraiment difficile.
Une surpêche qui se fait souvent dans l'illégalité, mais aussi en toute légalité, grâce notamment au lobby très actif au sein du Parlement européen, où se négocient les réglementations imposées aux flottes européennes. On en parle avec Frédéric Lemanac, directeur scientifique de l'association Bloom, une association qui a pour but de protéger les océans et leur biodiversité. Bonjour.
Bonjour.
La surpêche au large des côtes africaines, concrètement, ça touche quelles espèces et qu'est-ce que ça signifie en ordre de grandeur ?
Alors, on peut citer plusieurs espèces. Par exemple, le poulpe a été une espèce qui a été très pêchée et certainement très surpêchée en Afrique de l'Ouest et qui a créé des conflits entre la pêche industrielle, notamment européenne, et les populations locales d'Afrique de l'Ouest. On peut aussi parler de la sardinelle, qui est un petit poisson proche, comme son nom l'indique, de la sardine. Donc, c'est un petit poisson qui vit en bancs très importants et très denses, et qui est utilisé par la pêche industrielle pour alimenter toute la filière de l'aquaculture et des élevages terrestres. Ça peut aussi être les langoustes, le thon. Toutes ces espèces-là sont très ciblées par les pêcheurs industriels étrangers, puisqu'en fait, ce sont des espèces à très forte valeur. Et donc, on est dans une situation où les écosystèmes marins sont essoufflés.
On a des chiffres ?
Non, malheureusement, on n'a pas ce suivi scientifique suffisamment pointu pour vraiment avoir un feu vert ou un feu rouge sur les espèces. On l'a, par exemple, sur les très grandes espèces migratrices, comme les espèces de thon, que ce soit le thon obèse, le thon albacore, la bonite, donc toutes ces espèces qui sont ciblées par de très très grands bateaux, notamment européens. Là, on a des indicateurs scientifiques qui sont précis. Et par exemple, on sait que l'albacore est en état de surpêche avancée depuis 2015, que le thon obèse l'a rejoint en 2022, et la troisième espèce qui est de très loin la plus pêchée, qui est la bonite, qu'on retrouve notamment dans les boîtes de thon, est une espèce qui n'a jamais été autant pêchée qu'en 2022. Et donc là, on a une évaluation scientifique qui va venir cette année. Et nous, on est bien évidemment très pessimiste par rapport à la conclusion de cette évaluation, puisqu'en fait, on a beaucoup trop de bateaux, beaucoup trop efficaces pour pêcher ce poisson-là.
Et cette surpêche, elle se fait souvent dans l'illégalité ?
Alors, la surpêche, elle est légale et illégale. Illégal, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les bateaux sont là sans avoir l'autorisation d'y être. Mais ça veut aussi dire utiliser des méthodes de pêche qui ne sont pas considérées comme légales, pêcher des tailles de poissons qui ne sont pas considérées comme légales. Et donc ça, c'est tout un pan de la pêche illégale qui existe aussi dans la pêche européenne. Donc les Chinois sont très souvent pointés du doigt. Et il est vrai que c'est une puissance de pêche colossale au niveau mondial. La Chine, c'est le pays le plus peuplé au monde. Et ils ont aussi la plus grosse flotte de pêche au monde. Donc dès que les Chinois entreprennent quelque chose, c'est à une échelle qui fait forcément mal aux écosystèmes.
J'ai un chiffre paru dans le magazine Le Point. 40% des prises dans le bassin ouest africain sont considérées comme illégales. Ça vous étonne ?
Non, malheureusement, ce n'est pas du tout un chiffre étonnant, puisque la capacité des pays côtiers d'Afrique à contrôler leur zone de pêche est très faible. On a très peu de capacités technologiques, on a très peu de capacités humaines aussi pour aller sur la zone, pour regarder les données, par exemple, satellites et déterminer si un bateau est là de manière légale ou illégale. Et on sait, par exemple, que l'Afrique de l'Ouest est aussi typiquement une zone où on éteint les balises de localisation des bateaux. Donc, par exemple, en Europe, tous les bateaux de plus de 15 mètres de long doivent avoir une balise pour qu'on puisse les localiser, y compris le public, à n'importe quel moment. Mais en Afrique de l'Ouest, on a vraiment une zone où on éteint pour aller pêcher dans des zones qui sont censées être protégées, pour aller pêcher dans des pays avec lesquels on n'a pas développé d'accord de pêche, pour aller pêcher des espèces qui sont considérées comme protégées, etc. Donc on a vraiment un problème de surpêche et de pêche illégale en Afrique de l'Ouest, notamment parce qu'on a très très peu de capacités humaines, technologiques, financières à s'assurer qu'il n'y ait pas cette pêche illégale.
Et cette surpêche se fait aussi dans la légalité. De nombreux pays africains ont passé des accords de pêche.
Oui, les accords de pêche, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Union européenne va négocier pour le compte de ses entreprises de pêche un accès aux eaux du Maroc, du Sénégal, de la Mauritanie, de Madagascar, etc. Et contre une contrepartie financière, donc des subventions qui sont payées par le contribuable européen et reçues par Madagascar, le Sénégal, etc., les bateaux de pêche européens peuvent aller pêcher du thon, de la crevette, du merlu, de la sardinelle, etc. dans les pays d'Afrique. Mais les accords de pêche, ils ont aussi été établis avec la Corée, le Japon, la Chine, etc. Donc tous ne sont pas publics et c'est pour ça que parfois la société civile, le public a aussi une perception de pêche illégale alors que potentiellement il existe dans les couloirs du ministère du pays concerné un accord, mais celui-ci n'étant pas rendu public, on a l'impression que les bateaux sont là de manière illégale alors qu'en fait ils sont là de manière légale. Mais en tout cas, la présence légale d'un navire européen ou chinois dans les eaux du Sénégal ou de la Sierra Leone ou du Madagascar ne veut pas forcément dire qu'il n'y aura pas de surpêche, puisqu'en fait, ces bateaux-là vont jouer aussi avec les normes pour tricher à la marge ou pas du tout à la marge. Et donc, on a un problème de surpêche qui est aussi causé par cette présence de très gros bateaux industriels.
La pêche industrielle, cela signifie d'immenses chalutiers, souvent étrangers, qui pénètrent dans les eaux sénégalaises. Des mastodontes de 40 mètres de longueur, capables de pêcher 30 fois plus qu'une pirogue traditionnelle. Pour attraper les poissons, ces bateaux utilisent des chaluts, des grands filets qui draguent le fond des océans sans distinction. Les plus gros peuvent capturer jusqu'à 60 tonnes de poissons en 20 minutes. Sur l'annuaire public du port de Dakar, ce chalutier est immatriculé au Sénégal sous le nom DAC 1329. Mais c'est un prête-nom obtenu grâce à une société locale. D'après son immatriculation internationale que nous avons retrouvée, ce bateau bat en fait pavillon chinois.
Voilà, extrait d'un reportage de France Télévisions. La Chine, premier exportateur des produits de la mer, possède la plus grande flotte de pêche au monde. Frédéric Le Manac, pourquoi les Chinois viennent dans les eaux d'Afrique de l'Ouest?
Alors la Chine est présente dans les eaux de l'Afrique parce que les eaux de l'Afrique sont extrêmement riches et un des enjeux actuels de la pêche chinoise, c'est le développement de l'aquaculture, d'élevage de poissons carnivores qui, eux, ont besoin d'être nourris avec du poisson sauvage. Et donc, typiquement, la Chine développe tout un réseau de pêcheurs de pêche industrielle, semi-industrielle en Afrique de l'Ouest pour transformer le poisson pêché en farine, qui sont ensuite exportées vers la Chine pour les besoins du développement de l'aquaculture.
Et cette prédation en mer se fait avec des méthodes non sélectives qui embarquent tout au passage.
Oui, bien sûr, quand on parle de pêche industrielle en Afrique, on parle de bateaux qui sont très très grands. Par exemple, les plus gros bateaux européens font 80, 90, 120, parfois 140 mètres de long. Et ces bateaux-là utilisent des méthodes de pêche qu'on appelle par exemple le chalut, qui est une forme de chaussette qui va être tractée par un ou deux navires dans la colonne d'eau ou sur le fond marin. Et donc ça, ce sont des méthodes de pêche qui ne sont pas du tout sélectives, qui capturent énormément de poissons, mais pas seulement du poisson ciblé. On va aussi avoir ce qu'on appelle des captures accessoires de juvéniles, de requins, de tortues, de poissons qui ne sont pas commercialisés et qui vont donc décéder dans le processus. Et tout ça a un impact sur le fonctionnement des écosystèmes qui est absolument majeur et donc des populations locales qui dépendent aussi de la bonne santé de ces écosystèmes.
La pêche artisanale, source d'alimentation et de revenus, est très impactée. Gaoussou Gay est sénégalais. Il est le président de la Confédération africaine des organisations professionnelles de la pêche artisanale qui regroupe 27 pays côtiers d'Afrique et il décrit ses conséquences.
Chaque famille a sa pirogue et c'est la pirogue qui entretient la famille. Mais si cette pirogue-là n'arrive plus à partir en mer, qui prend des crédits pour avoir du carburant, qui prend des crédits pour nourrir sa famille, là ça pose des problèmes. Ça agit également dans le cadre de la sécurité alimentaire. La sardinelle, qui est le poisson le plus accessible aux populations les plus démunies. Nous le constatons, la raréfaction de la ressource. Mmh. Et c'est pour cela qu'on a dit, pourquoi ne pas réserver une zone exclusive à la pêche artisanale.
Frédéric Le Manac, la surpêche est une catastrophe pour les économies locales.
Bien sûr, et on peut reprendre l'exemple de la sardinelle, par exemple, au Sénégal. On a une espèce de poisson qui était vraiment à la base de la consommation de poissons locales et qui actuellement est achetée à quasiment 100% par la pêche industrielle et par la filière de l'aquaculture pour ensuite être exporté en Chine, en Norvège, etc., pour faire du saumon d'élevage ou de la carpe d'élevage en Chine.
Ce qui est complètement absurde, ils viennent pêcher la sardinelle, non pas pour nourrir les populations, mais pour nourrir les poissons d'élevage, alors que c'est un aliment de base pour ces pays d'Afrique de l'Ouest.
Exactement, donc tout cela a des impacts énormes sur les économies locales, et nous on a énormément de retours qui nous viennent par exemple du Sénégal, avec des personnes qui n'ont plus d'autre choix que d'essayer d'émigrer d'abord en premier lieu entre pays africains, puis ensuite vers l'Europe. Et quand on leur demande pourquoi, en réponse numéro un, quasiment tout le temps, on a la présence de chalutiers industriels européens, asiatiques, qui viennent prendre leur nourriture et qui ont détruit leur économie littorale.
Alors concernant la surpêche ou la pêche illégale, est-ce qu'il y a des poursuites et quelle institution est habilitée à le faire ?
Alors il existe très très peu de poursuites par rapport à la pêche illégale. D'une part parce que la pêche illégale, elle n'est pas vraiment définie. Ça peut aussi être des bateaux qui sont présents de manière légale mais qui vont tricher. Mais donc de faire la distinction entre ce qui était légal et ce qui était illégal à bord d'un navire de pêche qui a une présence légitime à un endroit, c'est extrêmement compliqué. On a aussi un problème de contrôle et de surveillance de la pêche qui est très très déficitaire. On n'a personne en gros pour surveiller les flottes de pêche.
Il n'y a pas de déclaration. Tout bateau de pêche peut arriver après avoir ratissé les fonds de mer sans déclarer ce qu'il apporte.
Alors les déclarations sont demandées, mais personne ou quasiment personne n'est là pour vérifier que ce qui est déclaré correspond à la réalité. Et donc on peut avoir des déclarations qui sont complètement farfelues. Et même quand des poursuites sont mises en place, en fait, les amendes qui sont décidées sont tellement faibles que c'est rentable pour la pêche industrielle de continuer à pêcher de manière illégale. Donc ça, c'est vrai en Europe et c'est encore plus vrai en Afrique, bien évidemment.
France Info. Deux points, ouvrez l'info.
Ce matin, je suis un thon et je vous assure que ma vie n'a rien de drôle. Je suis le poisson le plus consommé par les Français, 4 kilos par an et par habitant, mais je suis aussi un gros enjeu économique pour la France qui possède avec l'Espagne la plus grosse flotte de thoniers d'Europe. Et alors que la biodiversité des océans s'épuise, je ne me sens pas du tout protégée par la France.
Voilà, extrait de la chronique « Dans la peau de l'info » de Marie Dupin sur France Info le 14 novembre. Frédéric Lemanac, vous avez participé à une enquête intitulée « Le Far West de la pêche thonnière en Afrique » avec l'appui de l'association de lutte contre la corruption Anticor. Vous soupçonnez une ancienne haute fonctionnaire de l'administration française de conflit d'intérêts avec l'industrie du thon. Cette personne était chargée de négocier avec les flottes de pêche industrielle française l'accès aux ressources thonnières d'Afrique et vous avez constaté qu'elle est devenue lobbyiste à Bruxelles.
Exactement. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous a effaré en début d'année 2022. On a appris par voie de presse que cette personne, comme vous disiez, donc, qui était en charge de l'administration des flottes thonnières tropicales françaises, avait rejoint le lobby de la pêche thonnière tropicale européenne. Et donc, on s'est rapproché de l'association de lutte anticorruption Anticor pour monter un dossier, puisque, en fait, en France, il est interdit pour une personne de l'administration publique de rejoindre un groupe privé pour travailler sur les dossiers dont elle avait la charge lorsqu'elle était dans l'administration publique, dans un délai de 3 ans. Or, cette personne a quitté ses dernières fonctions d'administration de la flotte thonnière tropicale française en mars 2022. Elle a rejoint le lobby européen en avril 2022. Donc, un mois, c'est un peu inférieur à 3 ans. Et donc, on a monté un dossier avec Anticor et on a saisi le parquet national financier qui, d'ailleurs, a, depuis nos révélations, ouvert une enquête pour conflit d'intérêts. Donc, on a de bonnes raisons de penser que notre dossier était bien monté et qu'effectivement, le conflit est avéré.
Alors, conflit d'intérêts, cette ancienne haute fonctionnaire a été recrutée par le plus gros lobby de la pêche thonnière en France, Ortongel, membre du lobby industriel européen. Concrètement, ça veut dire qu'elle agit auprès des eurodéputés au bénéfice des industriels.
Exactement, donc elle est présente à Bruxelles. Donc cette personne qui avait la charge de s'assurer de la mise en œuvre des règlements européens et de s'assurer que les pêcheurs français ne faisaient rien d'illégal et ne causaient pas de surpêche, en fait, maintenant fait du lobbying pour justifier la surpêche et l'illégalité.
Pour dépasser les quotas au bénéfice des industriels.
Exactement. Alors, c'est pas que du dépassement de quotas, c'est aussi pour affaiblir les normes européennes sur les déclarations de capture. C'est pour faire en sorte que des contraintes ne soient pas mises ou en tout cas ne soient pas trop fortes sur les engins de pêche qui sont utilisés par ces pêcheurs-là. Et donc, cette personne-là a maintenant en charge, quelque part, de saboter les négociations pour que la mainmise historique européenne reste une mainmise européenne future.
Il y a d'autant plus soupçons de conflit d'intérêts que se négocie en ce moment au Parlement européen le règlement sur les déclarations de capture.
Alors en ce moment au Parlement européen, il y a un règlement crucial qui est en train d'être renégocié qui s'appelle le règlement contrôle. Et donc il y a un article qui est très important pour la pêche thonnière tropicale qui s'appelle la marge de tolérance qui en fait permet lorsqu'on déclare les captures qui sont réalisées, d'avoir une marge d'erreur entre ce qu'on déclare avoir pêché et ce qu'on a réellement pêché. Et donc, les pêcheurs industriels thoniers le disent ouvertement. Ils disent, nous, on a des méthodes de pêche qui sont tellement efficaces et tellement peu sélectives qu'en fait, on ne peut pas respecter le règlement actuel. On est en infraction involontaire constante. Et je reprends les mots d'Ortongel, donc le lobby français de la pêche thonnière. On ne peut pas respecter le règlement européen, donc il faut le changer. Et nous, bien évidemment, on dit le contraire. On dit, bah non, vous ne pouvez pas respecter le règlement européen parce que vous avez des méthodes de pêche qui sont trop efficaces et pas assez sélectives. Changez vos méthodes de pêche. Et d'ailleurs, le commissaire européen Virginijus Sinkevičius l'a dit de manière très forte. Il a dit, dans les années 60, on était capable de mettre des hommes sur la Lune. Vous n'allez pas me dire qu'en 2022 ou 2023, on n'est pas capable de savoir avec moins de 10% de marge d'erreur ce qu'on a pêché dans nos filets. Et donc, les pêcheurs européens, notamment français, par le biais aussi de l'État français, essayent de saboter ce règlement-là pour faire en sorte que ce que les pêcheurs français font depuis des années et qui est illégal, deviennent en fait la nouvelle norme. Et donc, on aura un affaissement absolument colossal de la norme environnementale au niveau européen qui permettrait de blanchir en fait des pratiques illégales et destructrices des pêcheurs français et espagnols depuis des années.
La marge de tolérance actuellement en vigueur est de 10%, c'est ça? Il y a eu un amendement adopté par le Parlement qui l'a augmenté à 25%.
Oui, ça c'est un des amendements qui a été voté. Donc la position du Parlement européen actuellement, c'est d'avoir plus que doublé la marge de tolérance actuelle. Donc on passe de 10 à 25% de marge de tolérance. La position du Conseil de l'Union européenne, donc qui est l'autre co-législateur avec le Parlement européen, est encore pire, puisqu'en fait, elle a été portée, la position du Conseil a été portée par la France. Hein. La France a eu la présidence du Conseil de l'Union européenne entre juillet et décembre 2022. Donc en fait, on a une position du Conseil de l'Union européenne qui est la position de la France, qui est la position du lobby thonnier français, qui est bien pire que la position qui a été votée par le Parlement européen. Mais en fait, ce qui est le plus probable, c'est que ce soit la position française qui l'emporte. Et donc là, on aurait les pratiques industrielles destructrices des Français et des Espagnols qui deviendraient la nouvelle norme au détriment des pays côtiers de l'océan Indien ou de l'Afrique de l'Ouest, qui bien évidemment seraient lésés.
Et donc, ce sera voté prochainement ?
Alors, le vote au Parlement européen a déjà eu lieu. Et donc là, actuellement, on va reprendre les négociations entre le Parlement et la Commission pour trouver un socle commun. Et une fois que ce socle commun sera retrouvé, le texte sera voté et validé et entrera en vigueur. Et donc, on a une fenêtre d'opportunité qui est assez courte, puisque actuellement, c'est la Suède qui a la présidence du Conseil de l'Union européenne, mais qui va la perdre au profit de l'Espagne en juillet 2023. Et donc, l'Espagne étant avec la France le plus gros pays pêcheur en Europe, notamment de thon tropical, on ne peut craindre que le pire si le règlement n'était pas validé avant que l'Espagne ne prenne la direction du Conseil de l'Union européenne.
Frédéric Lemanac, ça signifie que ça va plus loin que ce cas isolé que vous avez révélé dans votre enquête. Selon vous, l'État français est complice de ce système qui alimente les conflits d'intérêts?
Alors oui, effectivement, ça va beaucoup plus loin. Ce n'est pas simplement le fait d'une personne. Ce qu'on essaye de démontrer, c'est vraiment le système qui est toxique, de connivence constant, historique, entre la pêche industrielle et les administrations, voire les gouvernements français, espagnols, néerlandais, etc., etc. au niveau européen. Mmh. On a vraiment une distorsion dans les positions qui sont portées parce que les États décident d'aller aux réunions avec les lobbyistes industriels et non pas avec des représentants de la société civile.
Alors pour finir, quelles mesures pour protéger les côtes africaines des prédations en mer ?
Il faut absolument qu'on s'astreigne à ne pas être en conflit avec les pêcheurs artisans. Et par exemple, la question de la sardinelle en Afrique de l'Ouest, elle est absolument cruciale. Il est impensable et injustifiable d'avoir les plus gros bateaux de pêche au monde qui viennent pêcher un poisson qui sert de base alimentaire aux populations locales pour l'exporter à l'autre bout du monde pour faire de l'aquaculture. Ça, c'est le premier point. Que la pêche industrielle existe, bon, c'est pas le modèle qu'on porte, mais à la limite, on peut envisager une pêche industrielle si elle n'est pas subventionnée, si elle n'est pas destructrice, lorsqu'elle est loin des côtes et donc en dehors de la zone d'influence de la pêche artisanale. On a besoin de renforcer les capacités de transparence, on a besoin de renforcer les capacités de contrôle, de surveillance des États côtiers. Il faut que le Sénégal, la Mauritanie, Sierra Leone, Madagascar, les Seychelles, le Kenya, etc. aient les moyens humains, financiers, technologiques de s'assurer que personne ne pêche illégalement ou ne surpêche dans leurs eaux.
Voilà, il faut lutter contre les conflits d'intérêts. Merci beaucoup Frédéric Lemanac. Je rappelle que vous êtes le directeur scientifique de l'association Bloom.
Et puis nous sommes vendredi et donc nous allons découvrir le programme de Transversal avec notamment Olivier, un reportage à la maison maternelle du Brabant Wallon.
Oui, elle reçoit un appel de détresse par jour. Cette structure est en première ligne pour aider les femmes en détresse. Ça peut être des adolescentes enceintes, ça peut être des femmes très précarisées ou des femmes victimes de violences conjugales. Alors cette semaine, eh bien, nous sommes allés à la rencontre de deux d'entre elles.
D'un coup, il a pété les câbles et il m'a mis dehors. Il m'a poussé assez violemment. La police est intervenue et puis ben, je suis partie. Si je me maquille, je suis une pute. C'était des caméras partout dans la maison. J'avais plus droit à avoir des amis.
En fait, quand il sortait, il montrait aux gens tout allait bien et quand on rentrait à la maison, ben, c'était encore. J'avais peur en fait. J'avais peur. Il me disait, moi, je vais t'enterrer dans un jardin. Dans le jardin, si tu fermes pas ta gueule, quoi. Mais il a tellement mis cette phrase-là dans ma tête, c'est pas vrai, tu es folle, tu es schizophrène, tu es anorexique, les gens ils vont te voir comme ça, ils vont jamais te croire, la juge elle va te voir comme ça, elle va te prendre tes gosses, et c'est ce que tu veux. En fait, il arrivait toujours à me culpabiliser. Je sais pas, enfin, il m'a détruite en fait. Je sais pas comment vous expliquer, c'est petit à petit. En fait, il vous fait sentir comme si vous étiez moins que rien, quoi.
Solange et Malika, ce sont des prénoms d'emprunt, ont toutes deux été victimes, vous l'avez entendu, de violences, tantôt psychologiques, tantôt physiques. Elles ont passé plusieurs mois dans cette maison maternelle du Brabant Wallon et avec l'aide de l'équipe, avec l'aide d'une structure, elles ont entamé un long travail de reconstruction finalement. Et puis un jour, elles ont été capables de reprendre le cours de leur vie. Elles ont quitté cette maison maternelle grâce à un encadrement qui leur a permis de se reconstruire.
Notre mission de base, c'est vraiment de leur donner des outils pour qu'elles puissent retrouver cette confiance en elles pour pouvoir se construire. Et nous prenons souvent l'exemple d'une boîte à outils parce que ça peut, elle va avoir autour d'elle différents travailleurs sociaux avec des compétences différentes. Et chacun va lui amener des outils différents, que ce soit au niveau de l'enfant, que ce soit au niveau de elle, sa formation, comment on se redresse, comment on reste debout. Tous les ressorts ont été cassés, elles sont détruites au plus profond d'elles-mêmes. Elles n'existent plus. Et nous, notre rôle, mais il faut du temps. Il faut aller rechercher ces ressorts, attacher tout ensemble et qu'ils tiennent. Et que s'il y a le moindre souci, parce qu'il y aura des moments d'insécurité, il y aura des moments de stress, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, il faut qu'elles puissent aller rechercher ce ressort et l'attacher elles-mêmes tout de suite pour bien rebondir.
Un long travail de reconstruction, donc voilà pour ce second extrait d'un reportage de Véronique Fouillat et Michel Servet. C'est bien sûr à découvrir demain en intégralité à partir de midi dans Transversal, votre magazine de reportage.